bien évidemment dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20, à partir du verset 11. Je vais m'approcher un petit peu de vous. Voilà, l'Apocalypse, le chapitre 20. Et à partir du verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent rejetés dans l'étang de feu, c'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra, héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Et puis au chapitre 22, un petit peu plus loin, deux ou trois versets de plus, voilà, il n'y aura plus d'anathème, c'est-à-dire il n'y aura plus de malédiction, si vous voulez. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front, il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Amen. Voilà. Dimanche dernier, qui était là dimanche dernier? Beaucoup, hein? Voilà. Dimanche dernier, eh bien, nous avons vu que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Vous vous souvenez? Vous n'avez pas tout oublié, c'est bien. Et c'est vrai que la question primordiale, avons-nous dit à cette occasion que nous devrions, en tout cas chacun d'entre nous, nous poser, c'est la suivante. Où passerai-je l'éternité? Où passerai-je l'éternité? Puisque la Bible nous affirme, et c'est elle qui a raison, hein, qu'il y a deux lieux différents, le ciel et l'enfer. Mais justement, qu'y a-t-il et que n'y a-t-il pas dans l'un et dans l'autre de ces deux endroits? Et nous allons essayer, à la lumière de la Bible, de la parole de Dieu, non pas d'après l'imagination de certains théologiens du Moyen-Âge qui ont élucubré et raconté des choses qui n'ont rien à voir avec la vérité, mais à la lumière de la parole de Dieu, nous allons voir ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qu'il n'y a pas au ciel, d'une part, et qu'est-ce qu'il y a, et qu'est-ce qu'il n'y a pas, un enfer d'autre part. Alors le ciel. Dans le ciel, nous renseigne le texte que nous avons lu ensemble il y a un instant, il n'y a plus de larmes. On ne pleure plus dans le ciel. Voilà. Il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus d'angoisse. Le désespoir, tout cela, la déprime, tout cela a disparu définitivement. Et l'Écriture dit que Dieu essuiera toutes larmes de nos yeux, c'est-à-dire que nous bénéficierons de la consolation que Dieu nous accordera après les épreuves que nous aurons vécues, subies, ici-bas. Épreuves que même les croyants subissent, n'est-ce pas, d'ailleurs. Eh bien, là-haut, fini, Dieu essuiera toutes larmes de nos yeux, il nous consolera. Dans le ciel, à la place des larmes, il y aura la joie, l'allégresse, la paix, le repos, la sérénité, la sécurité, d'une manière absolue. Ce sera un bonheur parfait. Tout le monde veut être heureux. Vous voulez être heureux ? Qui ne veut pas être heureux ? Tout le monde veut être heureux. Chacun court après le bonheur, chacun à sa manière, parfois la bonne manière, souvent la mauvaise, mais le but sera atteint. Un bonheur parfait, un bonheur intense qui certainement dépassera tout ce que nous pouvons concevoir, imaginer, prévoir actuellement. Un bonheur sans ombre, que rien ne troublera plus, qui sera sans fin. Sur la terre, il arrive qu'on passe de bons moments, de bonnes périodes. Peut-être vous gardez le souvenir délicieux de tel ou tel jour de votre existence qui ont été particulièrement fastes. Mais là, ce sera démultiplié et ça durera toujours. Ici-bas, on a l'habitude de dire « les meilleures choses ont une fin ». Eh bien là-haut, mes amis, le bonheur sera sans fin. Il n'y aura plus de mort, puisque l'Écriture dit que eh bien, nous vivrons éternellement. Mais attention, pas une vie comme celle que nous vivons actuellement, parce que s'il s'agissait de vivre éternellement comme nous vivons aujourd'hui, ce ne serait pas tellement plaisant. Non, une vie d'une qualité supérieure, puisque l'Écriture dit que nous recevrons un nouveau corps qui sera entièrement régénéré, transformé, voyez-vous, éclatant de santé, la maladie, la souffrance, la faiblesse, la fatigue, le vieillissement ne nous atteindront plus. L'Écriture dit que notre corps glorifié sera plein de force, de vitalité, d'énergie, glorieux aussi, c'est-à-dire d'une beauté éblouissante, céleste, d'origine divine. Dans le ciel, il n'y a plus de deuil, ni de douleur. Nous ne connaîtrons plus la douloureuse séparation d'avec les êtres chers. C'est terrible la mort, hein ? Lorsqu'elle vient nous ravir quelqu'un que nous aimons, que nous aimions, c'est un déchirement. Mais il n'y aura plus de deuil, ni de douleur. Plus de tentation. Wow ! Parce que plus de tentateurs. Alléluia ! Le diable aura terminé sa triste carrière. Nous en aurons fini avec lui pour toujours. C'est vrai que par la foi en Jésus, actuellement, on peut se défendre. On peut lui résister par la foi, victorieusement. Mais quand même, nous avons fort à faire, n'est-ce pas, dans notre combat contre lui. Mais là, terminé. Il n'y aura plus de pécheurs dans le ciel, puisque il n'y aura plus de péché. L'Écriture dit qu'il n'entrera là-haut rien de souillé, c'est-à-dire de moralement impur. Nous serons rendus moralement parfaits. Je vous promets, je serai parfait. Pour le moment, nous sommes en voie de perfectionnement. Comme disait un pasteur, en chantier. C'est ce que la Bible appelle la sanctification. Le chrétien, c'est vrai, a été justifié par la grâce de Dieu. Ses péchés ont été pardonnés, la justice de Christ lui a été impartie. Au travers de Christ, Dieu le voit déjà parfait. Il ne l'est pas cependant. Et il est appelé à faire des progrès. Mais là, eh bien, l'œuvre sera rendue parfaite. L'Écriture dit que nous le verrons tel qu'il est et nous serons rendus semblables
à lui. Quelle merveille, hein ?
Voilà, les perfections divines se déverseront sur notre propre vie, sur notre propre existence, les défauts, les travers, les erreurs, les traits de caractère qui sont déplaisants, les mauvaises tendances que nous pouvons avoir, même si nous ne nous plongeons pas dans le péché, n'est-ce pas ? Tout cela, waouh, sera terminé et nous serons parfaits. Dans le ciel, il y aura aussi la fraternité. Vous savez que les hommes sur la terre cherchent ça, hein ? La devise de la République française, c'est liberté, égalité, fraternité. Liberté un peu, égalité pas beaucoup, et fraternité encore moins. Ben ça c'est mon commentaire, hein, je crois que vous le partagez. Mais là-haut ce sera le règne de la fraternité, avec ceux qui auront été rachetés, sauvés d'entre les pécheurs. Vous voyez ? L'harmonie, l'unité, l'amour universel. Plus de conflits d'aucune sorte. Voilà. Dans ce livre de l'Apocalypse, il y a ce chapitre 7 où l'apôtre qui a eu cette vision, parce que l'Apocalypse est une série de visions, de révélations. L'apôtre nous dit, après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, ils se tenaient devant le trône de Dieu et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau ». Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, c'est-à-dire leur être moral, spirituel. Ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Amen. Voilà. Hein ? Et voilà, ces gens, vous voyez, ils sont de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, sur la terre. Que d'affrontements, selon que vous avez la peau de telle ou telle couleur, que vous êtes de telle ou telle ethnie, de telle ou telle nation. Que d'affrontements, que de violence, que d'agressivité. Mais dans le ciel, ce sera, je le répète, l'harmonie, l'unité, plus de conflits d'aucune sorte. Et puis, dans le ciel, nous rencontrerons aussi les croyants de tous les âges, de toutes les générations, de toutes les époques, qui nous auront précédés là-haut. C'est Jésus qui dit dans l'évangile de Luc au chapitre 13, au verset 28, « Vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes, des grands personnages de l'histoire biblique, les apôtres, les prophètes. Vous vous rendez compte ? Être avec l'apôtre Paul, on aura des chances de lui demander. Hein ? Avec l'apôtre Pierre, avec des hommes comme David, avec des hommes comme Abraham, avec des personnages éminents que nous présente la parole de Dieu. Et puis aussi tous les croyants, si je puis dire, anonymes. Nous serons avec eux. Et il est logique de penser que si nous reconnaîtrons ceux que nous n'avons jamais connus ici-bas, Abraham, Isaac et Jacob, eh bien, à plus forte raison, nous retrouverons également ceux que nous aurons connus, les croyants tout au moins, amis, frères et sœurs dans la foi, famille, que la mort nous aura ravis pour un temps. Hein ? Parce que quand un croyant décède, oh, bien sûr, quand il a 99 ans et demi, on dit, voilà, il a fait son temps. Il part à la rencontre du Seigneur. Mais parfois, vous savez, ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on a une garantie absolue de vivre très, très, très vieux et très, très, très longtemps. Moi, je connais des croyants remarquables, qui sont partis relativement jeunes, même parfois très jeunes. Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi. Dieu est souverain, mes amis. Et personne ne peut jurer de rien. Nous avions à Avignon un frère qui avait 35 ans. Un soir, moi je partais en vacances le lendemain, il m'a salué, voilà. Il a conduit les champs même, à la Réunion. Et puis deux jours après, eh bien, rupture d'anévrisme, mais il est parti en une seconde. Voilà. Pourquoi ? Pourquoi ? Et un frère m'a dit, Sa femme m'a appelé, je suis arrivé, je l'ai vu là étendu et cette pensée est venue dans mon cœur. Dieu l'a pris. Un point, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. Alors bien sûr, c'est douloureux. Vous voyez, je suis rentré de vacances avec Hélène, les enfants, précipitamment. L'église était sans dessus dessous, hein, parce que c'était quelqu'un qui avait sa place dans l'église, et tout le monde l'aimait. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Et c'est vrai que c'est douloureux, et ça l'a été longtemps, maintenant consolé, mais enfin. Mais vous voyez, on se retrouvera là-haut, alléluia. Hein, tous ceux dont la mort a provoqué nos larmes, même si on sait qu'ils sont partis avec le Seigneur, qu'ils sont partis avec le Seigneur. Voilà. Nous verrons Dieu aussi face à face. Mais quelque chose, hein. Parce qu'actuellement, ce n'est pas possible. Moïse, qui pourtant jouissait, on l'a dit ce matin pour ceux qui étaient là, d'une communion, d'une relation exceptionnelle avec Dieu, quand il a dit « Seigneur, fais-moi voir ta gloire », Dieu lui a dit « Il n'est pas possible que tu vois ma face, parce que l'homme ne peut me voir et vivre. » Mais puisque nous serons, je vous l'ai dit tout à l'heure, comme dit la Bible, transformés, rendus semblables à lui, eh bien désormais ce sera possible de le contempler dans la plénitude de sa gloire et de ses perfections. Voir Dieu face à face. On l'a lu. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Waouh! Le Tout-Puissant, là. Vous imaginez? Devant le trône de Dieu. On essaie d'imaginer, mais on ne peut pas imaginer l'inimaginable. Nous l'adorerons, nous le servirons, et nous le servirons, c'est écrit. Certainement, les activités au service de Dieu, là-haut, seront nombreuses, variées et passionnantes. C'est vrai, il y a des choses qui nous sont dites, on chantera. Il est même question de musique, enfin, je ne me vois pas jouer de la mandoline toute l'éternité, hein. Ce serait un peu long, hein. Non, il y aura certainement autre chose, hein. Si vous êtes actif, vous en faites pas, vous ne faites pas de soucis, ce ne sera pas la retraite anticipée là-haut, hein. Les gens, quand ils arrivent à la retraite, ils s'ennuient à mourir. Eh bien, ce ne sera pas ça, le ciel. Il y a un cantique que les enfants de l'école du dimanche chantaient, je ne sais pas s'ils le chantent encore, qui dit « On ne s'ennuie jamais avec Dieu ». Alléluia. Certainement que ce seront des activités glorieuses, passionnantes. Notre service sera différent de ce qu'il est ici-bas. Ici-bas, on rend témoignage, on prêche l'évangile. Ce sera plus nécessaire, tout le monde sera convaincu et converti. Mais nous aurons d'autres activités. Nous l'adorerons, nous le servirons. Nous régnerons avec lui. La Bible parle de nouveaux cieux, d'une nouvelle terre. Puisque l'univers précédent aura été détruit, et oui, cet univers matériel, vous voyez, les gens qui s'attachent à tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils touchent, hein, la maison, la voiture, la télé, surtout si aujourd'hui c'est un écran plasma qui fait 2 mètres de large, hein, tout ça, mes amis, ça sera réduit à néant. L'Écriture nous parle d'une déflagration cosmique qui détruira la terre et les cieux d'à présent. Mais Dieu créera de nouveaux cieux, de nouvelles terres où la justice habitera. Et dans cette nouvelle création, de la part du Seigneur, nous exercerons son autorité. Et nous régnerons avec lui. Et nous vivrons en compagnie de Jésus, en qui nous avons mis notre foi. Et nous le verrons tel qu'il est vraiment dans la gloire. Hein, vous savez, il y a des peintres qui l'ont présenté avec les cheveux blonds, les yeux bleus. Tu parles, c'était un oriental. Hein. Alors les yeux bleus et cheveux blonds, c'est de la blague tout ça. Mais nous le verrons tel qu'il est, et pas tel qu'il était sur la terre, mais tel qu'il est dans la gloire. J'étais enfant, j'avais, je ne sais pas, 11 ans, 12 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai lu le début de l'Apocalypse, hein. L'apôtre Jean qui voit Jésus, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, sa voix était comme le bruit des grandes eaux, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Misère, quand j'ai lu ça, j'ai éclaté en larmes. Tellement j'étais
bouleversé, impressionné par la révélation biblique de la personne de Jésus, mais de Jésus glorifié. Mais là, on n'éclatera pas en larmes, mais en cris de joie plutôt, parce que nous serons accueillis en sa présence. Vous n'avez pas envie d'y aller, là-haut ? Ma petite description est certainement infime par rapport à la réalité de ce que ce sera. Ce sera glorieux. Et nous irons de découverte en découverte, d'émotion en émotion, tant nous serons subjugués parce que le Seigneur nous aura préparés là-haut. Après tout, c'est notre but aux croyants. Le ciel, l'éternité. Je sais, Dieu bénit sur la terre. Alléluia! On fait de belles expériences avec le Seigneur. Dieu répond à la prière, on le voit intervenir. Et nous bénéficions déjà de sa présence. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il nous réserve là-haut. Là-haut. Et alors, et l'enfer? Parce que la Bible nous en parle aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Un enfer? Il y a le diable qui y sera. Et ses acolytes, ses associés, les démons. Parce que vous savez, l'enfer, à l'origine, n'a jamais été préparé pour les hommes, mais pour le diable. C'est écrit, c'est Jésus qui le dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, au verset 41. Quand il condamnera les réprouvés, les perdus, il leur dira, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Et ils finiront leur triste carrière après, vous voyez, des millénaires de révolte contre Dieu. Eh bien voilà, ils sont précipités dans les temps ardents de feu et de soufre. Et le diable et les démons y seront. Mais ceux qui persisteront à le suivre et à vivre volontairement sous son influence le rejoindront là aussi où il sera lui-même. Moi, j'ai pas envie d'être avec lui. Hein. Pas envie de passer l'éternité en sa triste compagnie. Dans le ciel, dans l'enfer, pardon, eh bien, ceux qui y seront connaîtront le tourment. Écoutez ça, Apocalypse chapitre 14, verset 10. Je le lis pour vous, ou avec vous, comme vous voulez. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Il y a des paroles terribles. La colère de Dieu, plus même, la fureur de Dieu. Ils n'auront, la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles et ils n'ont de repos, ni jour, ni nuit. L'angoisse, le remords, quant aux fautes, aux péchés commis tout au long de la vie, la solitude effroyable. Personne pour te prodiguer une parole de réconfort, de consolation, seul. Les vains regrets pour les occasions manquées. Ah, ils se diront, ceux qui y seront, si seulement j'avais voulu croire, si seulement j'avais voulu répondre à l'appel divin que tant et tant de fois au travers de la prédication de l'Évangile, j'ai entendu, si seulement. Mais toutes ces occasions nombreuses qui se sont succédées les unes après les autres, je les ai toutes négligées. Et je suis ici maintenant, dans ce lieu de tourment. Ce sera effroyable, mes amis. Si j'ai eu beaucoup de peine à vous décrire ce que sera le ciel, j'en aurai certainement beaucoup aussi à vous décrire ce que sera l'enfer. Vous savez, c'est ces peintures du Moyen-Âge, là, c'est de la blague, cette marmite où les réprouvés, les damnés sont en train de cuire le feu étant attisé par le diable et des petits démons, ça n'a rien à voir.
Non, non, c'est un lieu d'angoisse, de remords, de solitude, de vains regrets, de désespoir. Et tout cela, sans répit, sans fin, nous sommes en train de parler d'éternité, sans aucune possibilité d'en jamais échapper. Un tourment intense, au-delà de toute destruction. Vous savez, la Bible parle de feu et de soufre. Et vraisemblablement, il ne s'agit pas de feu au sens matériel du terme. Ce sont là des images qui ont pour but d'illustrer l'intensité extrême de la souffrance morale et spirituelle que connaîtront ceux qui seront plongés dans les tourments infernaux. Et puis, l'enfer, c'est par définition le lieu de l'éloignement de Dieu, la séparation totale et définitive. L'Épître aux Thessaloniciens nous dit « Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. » Savoir qu'il y a quelque part un Dieu d'amour, un Dieu de gloire, un Dieu de lumière, et être plongé dans un abîme de ténèbres, de solitude, éloigné de lui, et donc éloigné de toute source de consolation. C'est ça l'enfer. Alors, la conclusion, vous savez, ces choses consignées dans l'Écriture, elles n'ont pas pour but d'impressionner les gens crédules. Non. Il s'agit là de la stricte réalité. Et encore, je vous le répète, je suis en dessous, bien en dessous, concernant à la fois le ciel et concernant l'enfer, en dessous de la réalité. Mais Jésus a dit, ta parole est la vérité. Et ce que je viens vous dire, eh bien, c'est la parole de Dieu. Ce sera terrible de s'entendre dire par le Seigneur Jésus lui-même que Dieu, son Père, aura établi comme juge suprême, de s'entendre dire, c'est écrit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, verset 41, « Retire-toi de moi, maudit, et va dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. » Vous imaginez un peu le doigt du Seigneur Jésus se pointant sur vous et vous disant « Retire-toi de moi, maudit. » Mais Seigneur, je t'ai prié quelquefois. J'ai été écouter l'évangile quelquefois. Parfois même j'ai été touché un petit peu dans mon cœur, oui, mais pas suffisamment, pour se repentir et pour mettre sa foi en lui. Alors retire-toi de moi, maudit, et va dans le feu éternel. L'Écriture dit que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Parce que notre Dieu est aussi un feu dévorant. Alors, pour échapper à ce terrible châtiment et hériter du ciel, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que tu crois, ami. Et il faut que tu te repentes. Voilà. Voilà, ça tient en deux verbes. Crois et repens-toi. Pas plus tard, tout de suite. Aujourd'hui. Maintenant. Là. Dans ce lieu. Croire, c'est mettre sa foi en Jésus. Mets ta foi en Jésus. Comme l'ont exprimé ces cantiques, réalise qu'il a donné sa vie pour sauver la tienne. Alléluia! Pour t'ouvrir tout grand les portes du ciel, du royaume de Dieu. Et pour que tu ne sois pas livré au tourment de l'enfer, pour te faire échapper à ce sort tragique. Christ a donné sa vie. C'est ce que la Bible veut dire quand elle dit « Christ est mort pour nous, Christ est mort pour nos péchés. » Crois-le, il a fait ça pour toi, même si tu avais été le seul sur cette terre qui a eu besoin de salut, Christ, tout exprès, serait venu et il aurait donné sa vie en rançon pour tes péchés à la croix du calvaire. Crois, mets ta foi, Mets ta confiance en Jésus. Crois au point de lui donner ta vie. N'hésite plus, engage-toi, livre-toi. Oh, ne dis pas mais je ne suis pas solide, je ne suis pas costaud, je ne suis pas sûr de tenir le coup, la force que tu n'as pas. Il te la donnera pour que tu ailles jusqu'au bout du chemin. Les chrétiens que nous sommes ne sont pas des gens exceptionnels, n'est-ce pas mes frères et sœurs? Vous avez l'impression vous d'être exceptionnels? Non? Mais Dieu nous fait grâce de jour en jour. Crois, crois et repens-toi. C'est-à-dire, confesse ton péché, avoue-le, ouvre ton cœur, toute la souillure, la saleté, la crasse, tout ce qui a fait ton indignité, tout ce qui t'a avili, dégradé, parle-lui de ça. Il le sait, mais dis-le-lui et demande-lui pardon, car c'est son désir. Confesse ton péché et abandonne-le, ton péché. Renonce à ton péché. Peut-être jusqu'à présent, tu as pensé y trouver ton compte, mais ce n'est pas vrai. Le péché est une illusion. La joie du pécheur, dit l'Écriture, est de courte durée. Toujours. Et on finit par y trouver amertume, déception. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Abandonne ton péché. Peut-être il y a là des liens solides qui te retiennent captif, captif du mal qui est en toi. Finalement, tu es captif de toi-même. Tu vous dis, je voudrais abandonner, je ne peux pas, c'est plus fort que moi, il peut t'aider. Viens à ses pieds et il brisera les chaînes et les liens qui te retiennent captif. La repentance, ce n'est pas simplement une confusion, un remords passager. Vous voyez ? Il y a des gens qui sont confus parce que, voilà, leur mal est découvert tout à coup. Alors, boum, ils rougissent de honte. Ça va plus loin, la repentance. C'est régler le problème. C'est aller au fond des choses. Et quand on fait ça, Dieu fait grâce, à coup sûr. Il pardonne. Alléluia. Alors voilà, vous savez tout. Crois et repens-toi et tu seras sauvé pour l'éternité. Tu échapperas au tourment de l'enfer et tu bénéficieras de toutes les grâces divines dans le royaume des cieux. Amen. Prions le Seigneur.